Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour le J-19. J-19 avant cette belle randonnée sportive autour du Mont Blanc, magnifique. Très très beau. J-19, ce matin on se lève et confirmation, j'en étais sûr et certain. Fréquence cardiaque au repos, 49 comme hier, pas terrible, plutôt vilain même, mais... Bon, vu que j'avais bien tabassé hier aussi. Peut-être demain matin, ça baissera un petit peu. Mais bon. Après, en fait, au matin, c'est bizarre, au réveil, j'ai une fréquence cardiaque qui est merdique. Mais dans la nuit, bon, si j'écoute ma montre, ça descendait à 45, tu vois, on était quand même 4 pulses en dessous. Et dans l'après-midi, quand je prends un petit temps calme pour lire un livre, voire même une sieste, ce qui m'est arrivé deux fois en 10 jours à Tignes, bah, par exemple, hier, pareil, je suis redescendu vers 45 et quelques, donc... Bon, apparemment, c'est pas au matin où je bats le plus bas. Bref, c'est pas très grave, parce que... Bon, j'ai du mal à l'interpréter, je la mets dans mon tableau de mesure, je suis content, mais... La forme étant bonne, si tu veux, j'en ai un peu rien à cirer de la fréquence cardiaque au repos. 98 de saturation, bon, bah, ça explique que ça envoie du bois quand je fais les sorties, et encore un petit... 59,5 kg, donc voilà, une fois que l'homme est bien hydraté, on a l'air stabilisé autour de ce poids, ce qui me semble tout à fait logique, même si je savoure une gorgée de cette délicieuse renarde qui passe toute seule après 6 heures de vélo, même si Sébastien Diefenbaum aimerait que je pèse 60,5 kg, voire 61 kg, ce qui explique selon lui une testostérone un peu basse, comme on peut le voir depuis 2 ans sur mes analyses de sang régulières. C'est vrai, il a raison. Mais regardez-moi. Regardez comme je suis déjà nerveux, acerbe, parfois un peu violent, avec une testostérone basse. Imaginez si elle était haute. Mais je serais déjà en prison. Peut-être c'est mieux pour tout le monde. Tu sais, ça me fait souvent penser, quand j'étais au collège et au lycée, je réagissais exactement comme aujourd'hui, sauf qu'en face de moi, il y avait ce qu'on appelait l'autorité. Le prof, le CPE, le proviseur, ce que tu veux. Et si tu veux, quand le proviseur, il t'expliquait qu'en fait, 30 heures de colle, c'était beaucoup trop au premier trimestre, parce que t'étais en première scientifique, et que toi, tu répondais « ça m'intéresse pas », tu vois, il était... Et c'est pour ça que dans le bulletin, c'était écrit « doit apprendre à canaliser son énergie ». Voilà. C'était pour qu'il n'y ait pas ce genre de remarques qui partent comme ça au centre du clairon. Ben voilà, maintenant, avec 30 heures de sport par semaine, je canalise mon énergie, tout le monde est content. Alors, petit rappel en prélude de ce podcast pour le week-end Patreon, donc uniquement ceux qui s'étaient inscrits. D'ailleurs, on est déjà trop, hein, donc... Je vais en virer de manière arbitraire. Voilà, ça tombera peut-être sur vous. Vous serez triste, mais tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. La vie, c'est comme un zizi. Hein. Parfois, c'est dur. Ouais, on est quand même 33, là. Bon, ça va, il y en a, je sais que c'est des riches bourgeois qui ont des vannes, ils pourront dormir à côté du logement. Donc, tout ça pour dire que celles et ceux qui ont répondu présent pour le week-end Patreon, j'attends pour les 25 personnes qui ne l'ont pas fait, un mail avec votre numéro de téléphone, avec votre vote. Est-ce que je veux aller dans la Drôme me caresser sous le soleil ou est-ce que je veux aller vivre une expérience commando dans le Mont d'Or parce qu'il va faire froid et il va pleuvoir. Voilà, il faut voter. Drôme, Mont d'Or. Me dire également d'où vous venez, comme ça on peut organiser le... C'était un petit orage, ça. Me dire d'où vous venez pour que j'organise le covoiturage, puisque nous aimons tous la planète, sauf Kylian. Et me dire... Ah, sa gueule. Peut-être l'orage a tué quelqu'un. Bon, c'est pas grave. Suite à cette nouvelle qui est bonne pour l'écologie, dites-moi ce que vous amenez à manger. Voilà. Donc, par exemple, Adrien Yeri... Salade composée, magnifique ça. Et, dessert. Ah, il laisse planer le doute. Coquinou. Voilà. Un autre point intéressant. Un patriote. Sans doute proche de Sissou. Quelle honte! Ouh, c'est mal. Shame, shame, shame on you. Comme dans la série Game of Thrones, là, c'était exceptionnel ce moment. Un patriote me faisait remarquer qu'il n'y avait pas de code promo pour l'application Scalpel de mon préparateur physique Pilo Rosso. Eh bien, le voici, le voilà, le code promo Hugo20 qui vous donne droit à 20%. Voilà. Vous êtes content? Bon, vous avez intérêt de la télécharger maintenant. Hein. Alors, allons-y pour la question du jour. Et en fait, plutôt que la question, tiens, je me suis amusé à faire le dimanche de Cayolle. Alors, qu'est-ce que c'est Cayolle? Est-ce que c'est un truc à bouffer? Ben, normalement, si vous n'êtes pas cannibale, non. C'est Rémi Cayolle, patriote. Et petite salve de questions qui méritait qu'on s'y intéresse. Donc, la première, est-ce qu'à ton niveau, tu as pu statuer sur l'effet de la privation de caféine pendant 10-15 jours? Donc, pour rappel, jusqu'à l'UTMB 2021, qui était un objectif. Suite à l'échec de l'UTMB 2018, je faisais un sevrage en caféine pendant 15 jours. Donc je ne buvais pas de café, je ne buvais pas de thé. Bon, ça, c'est pas dur, j'aime pas ça. Et le jour J, je reprenais un café. Alors, en 2019, erreur, je prends un café juste avant le départ. Donc le café, ça déshydrate un petit peu. C'est comme la bière. Ça a des bienfaits, mais il y a un gros méfait, c'est que ça déshydrate un petit peu. Et donc, quand on le prend juste avant le départ, bah, tu te tires une balle dans le pied. En 2021, j'avais fait 15 jours de sevrage de caféine et j'ai pris la caféine vers minuit, donc une fois que la course était bien lancée. Là, c'était pas mal. Et en fait, sur d'autres courses, je me suis raté. Alors, c'est pas à cause de la privation de caféine. Mais Sébastien Diefenbrom, mon nutritionniste, m'a dit « Écoute, Hugo, j'ai quand même lu une méta-analyse, donc c'est une analyse de plusieurs analyses, pour simplifier, qui dit que ce sevrage en caféine, c'est un peu de la flûte. C'est un petit peu du flan, quoi. C'est un peu au doigt mouillé. » Alors je dis « Oui, bon, ok. » Il me dit « ce qui serait intéressant, en fait, c'est que tu essayes, sur d'autres courses maintenant, de consommer du café, voir si tu vois une différence. » Je n'ai pas vu de différence. Donc, que je fasse ma privation ou que je la fasse pas, j'ai pas vu de différence. Par contre, là où je vois des différences, en fait, c'est sur la prise de café. Dorénavant, je ne bois mon café que le matin. À de très rares occasions, je dirais que ça arrive peut-être une fois par semaine. J'en prends un en début d'après-midi, mais c'est vraiment très très rare. Sinon, je suis parti là sur deux cafés le matin. Et c'est marrant parce que avant j'en prenais 4, donc j'ai quand même divisé le truc par 2. Et ça ne me contrarie absolument pas. J'ai pris l'habitude et putain, c'est incroyable, ça m'a. Donc voilà. Et du coup, l'après-midi, j'en profite pour m'hydrater avec d'autres boissons. Et du coup, par exemple, pour l'UTMB cette année, la stratégie, ça va être de continuer à consommer régulièrement cette petite dose de café. Parce que quand tu arrêtes, en fait, c'est un petit peu une drogue quand même. Et quand tu arrêtes, tu as 5 jours où tu te sens pas bien, tu es bizarre. Alors ça influe sur tes sensations. Après, du coup, ça influe sur ton mental, ça te perturbe. Tu vois, en pleine période d'affûtage, une période où le cerveau travaille beaucoup aussi. Donc finalement, on garde les habitudes. Tu vois. On modifie pas grand-chose. Comme ça, il y a pas de stress qui est créé, quoi, voilà, toujours 2 cafés par jour le matin. Et le vendredi, donc c'est avant que l'UTMB démarre, le matin, il y aura 2 cafés. Il y aura 2 cafés le matin, et puis voilà, l'après-midi, je bois tranquillement. Et dans la nuit, toutes les 3 heures, une capsule de caféine. Voilà. Et donc, Rémi, à mon humble niveau, je peux pas te dire que ce soit bien de faire une privation ou pas. Après, je pense qu'il est toujours bien d'essayer quand même sur soi-même. Pour se faire une vraie idée, tu vois. Admettons que vous ayez deux objectifs dans l'année. Et bah, sur l'un, vous continuez de boire du café. Et sur l'autre, vous faites cette petite privation de 15 jours. Et puis, vous regardez s'il y a une différence. Par contre, ce que je dirais, c'est que pour celles et ceux qui débutent sur des ultra-trails, eh bien, peut-être que cette privation de café peut quand même être un petit allié sur le premier, le deuxième et peut-être le troisième ultra-trail que vous allez faire. Parce que finalement, est-ce qu'aujourd'hui, le fait de continuer à boire du café ne me fait rien parce que finalement, j'ai une plus grande expérience de l'ultra-trail. Et du coup, mon corps est plus ou moins habitué à bouger la nuit. Tu vois, il y a ça aussi à réfléchir. Donc, je dirais que finalement, il faut essayer. C'est une expérience qui est intéressante. De toute manière, tout est intéressant. Le jeûne sur une semaine est intéressant. Voilà, c'est des choses à essayer, en fait. Au lieu de discuter, il faut essayer. Alors, deuxième question. Cette année, tu n'as pas de masseur sur place. Donc là, je pense que tu parles de Tignes. Ça a une incidence sur ta récup. Écoute, je ne sais pas. Oui, sans doute. À mon avis, tu te fais masser tous les soirs. C'est quand même beaucoup plus agréable. Maintenant, bah, mon masseur est en vacances, en fait, parce que lui aussi, malheureusement, possède une compagne et donc l'empêche de travailler et de gagner beaucoup d'argent. Et en plus, le pousse à le dépenser. Donc c'est vraiment... voilà, si vous êtes célibataire aujourd'hui, surtout, n'allez pas en couple, vous allez perdre sur tous les plans. Je rigole. Mais c'est un peu vrai quand même. Donc cette année, je n'ai pas de masseur sur Tignes. Oh, une incidence, oui, sans doute un peu. Après, j'essaie d'être encore plus sérieux sur les à côté. D'autant plus que finalement, ce qui me manquait, c'était pas de me précipiter au sauna, de me précipiter sur mon rouleau d'automassage, de me précipiter sur mes élastiques pour faire des étirements. Ce qui me manquait, en fait, cette année, ce qui était mon plus grand... Pas curseur de développement, ça veut rien dire. Ouais, le plus gros axe d'amélioration, c'était le temps calme. Alors la méditation, bon, ça me fait chier, mais m'allonger sur le divan en lisant un livre, putain, alors là, ça me fait du bien. C'est un truc de fou. C'est pas aussi bien qu'une pipe, mais quand même, on n'en est pas très loin. En tout cas, ça dure plus longtemps. Alors mon masseur, je vais le voir quand il rentre de vacances et que je rentre de Tignes. Boum, mercredi 23 août, massage à Chambéry. En plus, il y a une symbolique là-dedans. Je descends de Tignes, le taf est fait, je range mes affaires, j'emballe quelques colis. Je remercie ceux qui ont acheté quelques chaussettes et casquettes. Là, j'ai deux paires de chaussettes et une casquette à emballer à mon retour, j'en salive d'avance. Vous savez que ça m'excite de faire des colis, je ne l'explique pas. Je dois être un chat, c'est comme les chats. Les chats, ça les excite de voir des cartons, ils sautent dedans. Ben moi, j'adore les faire. Voilà. Du coup, je le vois le mercredi 23. Ensuite, on a la fin de la phase d'affûtage. Et après, il me revoit mardi 28 août. Et là... Il me finit sur le massage et hop, l'homme est prêt pour la course. Donc il y a une dimension romanesque dans le massage cette année, tu vois, que j'aime beaucoup. Voilà, tout est prévu, quoi. Alors, troisième petite question. Tu avais calé tes temps de l'an dernier, ajustant par rapport au temps de passage de Courtenay. Exactement, je me suis servi de son allure jusqu'à Burton, que je trouvais excellente. Et après, je n'avais pas eu la forme. L'an dernier, j'ai pris le départ, j'étais pas très en forme. Je n'avais pas eu la forme pour suivre son pacing, mais il était relativement bon. Eu égard aux sensations que j'ai eues l'an passé, je décide cette année d'arriver avec 10 minutes d'avance à Courmayeur, parce que je pense que j'en suis largement capable. Et donc, d'accélérer encore plus après aussi. Enfin... d'aller moins vite que Courtenay sur la deuxième... Enfin, d'accélérer un petit peu moins que Courtenay sur la deuxième partie. Parce que L'an dernier, j'étais vraiment éloigné de ses temps sur la deuxième partie. Et je voyais comment l'améliorer, mais putain, je voyais pas comment l'améliorer autant. Et par contre, j'ai eu des petites frustrations sur le début et je me dis, bon, une minute par-ci, une minute par-là, au final, ça en fait 10, c'est un bon compromis. Donc, mes temps de 2023 sont en fait un mélange entre les temps de Courtenay 2021 et ma réalisation en 2022. Est-ce que je compte me servir de son pacing vu qu'elle est là cette année ? Si elle n'est pas cramée, évidemment. Alors, si elle n'est pas cramée, quand même bizarre. Je rappelle que Courtenay, elle a fait la western, elle a fait la hard rock. Mais elle ne s'est pas contentée de les faire en rando, comme Sanjay Sherpa, qui bouffe du fromage le dimanche sur les courses en faisant 100 km. Non, elle a battu le record féminin à chaque fois. Le record féminin de la western, c'est pas un truc de guignol. C'était un vrai temps avec une vraie population féminine qui s'essaye à la course chaque année de manière compétitive. D'accord ? Elle bat le record d'une heure et quart. Sur une course de 15-16 heures, c'est beaucoup. C'est 7%. C'est énorme. Trois semaines après, elle va à la Hard Rock. Et là, elle améliore de une heure le record qu'elle possédait déjà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'elle améliore le chrono qu'elle a fait alors que cette année, elle a fait un 100 miles trois semaines avant. C'est incroyable. Et là, elle ferait l'UTMB toujours sur sa forme. Mais Wout Van Aert, c'est un trou de balle à côté. Parce que Wout Van Aert, si tu veux, il fait des efforts de 20 minutes. La Courtenay, elle fait des trucs de 24 heures. Avec une dimension ostéo, je sais pas quoi, là, les chocs, quoi, hein, tu vois. Donc ce qui serait bien, c'est qu'elle échoue à l'UTMB pour le bien de la discipline, je pense. Sinon, ça va quand même se voir un petit peu. Est-ce que tu comptes te servir de son pacing ? Alors imaginons qu'elle fasse... Parce qu'en fait, je pense que malheureusement, elle va courir comme d'hab. Donc très haut, à un très haut niveau. Est-ce que je compte me servir de son pacing ? Non, pas vraiment. Moi, je vais être vraiment dans mes temps de passage. Après, bah oui, c'est vrai que normalement, elle devrait être plus ou moins avec moi. Ouais, je sais pas trop, parce que c'est vrai que je vais beaucoup regarder mes temps de passage, mais comme des fois ils sont espacés de quasiment une heure, ben entre les deux, oui, tu as tendance à courir avec des coureurs. Donc il est possible qu'à certains moments, je sois amené à courir à ses côtés, comme il est possible qu'à certains moments, je sois amené à courir avec Diego Pazos ou Ludovic Pomerès, qui avait été le cas en 2021. Ils sont plus ou moins sur les mêmes temps. Alors, je ne sais pas si Diego va arriver dans la même forme qu'en 2021. Après, lui, il nous surprend toujours. Il est exceptionnel, hein, quand même. Et puis, Ludo, peut-être... est-ce qu'il va plus vite ? Est-ce que l'âge commence à taper aussi ? Il se rapproche des 50 ans, quand même. Voilà, je pense que c'est des coureurs qui vont graviter un peu autour de moi. Beaucoup d'autres aussi dans les premières heures. Donc, je vais surtout faire attention à mon chronomètre, ouais. Et le fait que je sois avec un tel ou un tel ne sera qu'une conséquence, puisque je rappelle que pour l'instant, ceux qui veulent vraiment me suivre, c'est-à-dire que moi, je vérifie le chrono et eux me suivent derrière et me font confiance, c'est Aubin Ferrari, Alexandre Bouchex et Théo Le Boudec. Voilà, on serait quatre pour l'instant. Peut-être Clément Desilles, mais il hésite encore. Il pense qu'on va trop vite au début. Ta fiole. Et dernière question, putain, il pleut beaucoup là. Dernière question, selon Strava, tu ne fais plus d'exo de pied, ta gêne due à la boule sous le pied n'est plus présente. Eh ben ça, c'est une bonne question. Effectivement, Rémi, je ne fais plus d'exo de pied parce que, en fait, ces exercices nécessitaient des petites marches, des kettlebells, des... Ça me fait chier de prendre le créneau d'aller à la salle pour le faire. Du coup, bon, on n'en a pas mis là, puisqu'il y avait beaucoup d'heures. Puis quand tu fais, tu vois, aujourd'hui, c'était pas très dur, j'ai fait 6 heures de vélo, mais après, c'est difficile de se concentrer pour bien faire l'exercice. Donc c'est vrai que jusque-là, on a un peu abandonné le truc. Je suis parti en mode... Là encore, il y a une dimension psychologique, tu vois. Je me suis exilé à Tignes et j'ai coupé drastiquement avec mon quotidien, en fait, par rapport à ce que je faisais avant. Par contre, on a prévu d'en remettre. Et si je me rends sur le Nolio, là, en même temps, ça ne doit pas trop tarder avec le début de l'affûtage. Donc, en fait, le début de l'affûtage, pour moi, va commencer vendredi prochain, en fait. Là, ce que je suis en train de faire du jeudi 10 août au jeudi 17 août, je suis en train de faire un bloc d'entraînement, mais qui est divisé par deux par rapport à d'habitude en termes de tout. Par contre, après, on arrive sur un vrai affûtage. Parce que là, je ne peux pas vous dire que c'est un début d'affûtage. Hier, je fais 5 heures, aujourd'hui 6. Et par contre, à partir de vendredi prochain, oui. Et là, à ce moment-là, des séances vont revenir. D'abord, des choses faciles, à raison de 2 par semaine. Même 3 du 21 au 27 août, parce que je serai chez moi tranquille. Et 2 trucs très faciles avant l'UTMB pour blinder. Alors évidemment, si j'ai choisi de plus m'entraîner et de laisser de côté ce truc-là, c'est que tu te doutes bien, Rémi, que je n'ai pas mal sous le pied. Et ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer que j'ai plus mal sous le pied. Parce que la boule est là. Hein. Alors, si je la prends dans mes mains, que j'appuie dessus et tout, ouais, j'ai mal. Mais quand je cours... Tu vois, je pars, je trottine, imaginons que je suis avec quelqu'un, on discute et tout. Et je rentre de ma sortie, et ben, j'ai pas eu mal, j'y ai pas pensé. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les semelles, là, on a fait une deuxième version avec un trou sous la boule. C'est vraiment génial. Il y a aussi tout le travail que je fais sur la maîtrise de ma glycémie depuis mi-avril. Alors ok, il y a certaines journées où c'est quand même parti en couille et tout, mais globalement, sur l'ensemble de la semaine, l'ensemble des mois qui se sont écoulés, j'ai beaucoup amélioré les choses, donc j'ai un terrain inflammatoire qui a certainement dû diminuer. Puisque je vous rappelle que le sucre dans le sang, c'est une inflammation. Quoi d'autre ? Alors, je suis désolé parce qu'il y a des médecins parmi mes patriotes, ça va peut-être vous choquer. Ce que je dis est... Peut-être ça n'a aucune incidence, peut-être c'est ça qui fait tout, j'en sais rien. Je prends de l'homéopathie. Oui, je sais, c'est mal. Mais franchement, j'ai été actionnaire de Boiron, là, et ils se sont fait racheter, ou je sais pas quoi, ils avaient gagné 20% en bourse. Putain, gros, je me suis fait des couilles en or. Évidemment, dès que j'ai vu ça, j'ai vendu l'entreprise, hein, parce que... Mais quand tu vas en pharmacie, c'est vrai que Boiron, ils font beaucoup de choses, quoi. Ouais, je prends de l'homéopathie. Putain, d'ailleurs, faut que je recommande, là, parce que j'ai fini le truc. Écoute, c'est un truc pour... C'est une naturopathe qui m'avait filé ça. Bon, évidemment, c'est toujours des gens, tu sais. Moi, j'ai pris pour lui faire un peu plaisir, et puis, bah, je sais pas, peut-être ça joue un peu. Bon, je pense que la semelle y est quand même pour beaucoup, mais... Sait-on jamais. Sait-on jamais. Je dirais que c'est un ensemble de choses. Et en tout cas, oui, cette boule sous le pied, bah, pour l'instant, ne m'emmerde plus du tout. Voilà mon petit Rémi. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait le duc ? Qu'est-ce qu'il a fait le duc ? Aujourd'hui, on a fait un peu de bicyclette. À bicyclette. C'est peut-être une chanson de droite, ça aussi. Et ce que j'ai vu sur Twitter, maintenant, vous avez des gens totalement inconnus, qui, pour qu'on fasse parler d'eux, en fait, font des interviews débiles. Donc, ils s'inspirent sans doute de Sandrine Rousseau, qui a lancé cette mode. Et donc là, on a Juliette, je sais pas quoi. Attendez, ça m'agace, je vais reboire de la renarde. qui nous sort que Les Lacs du Connemara, c'est une chanson de droite. Non, Juliette. Les Lacs du Connemara, c'est une chanson. Point. La phrase est terminée, d'accord ? Qu'est-ce que c'est que ça, maintenant ? On politise des chansons. Mais Michel Sardou, il n'en avait rien à cirer quand il a écrit ça. Les Lacs du Connemara, c'est une chanson où on boit de l'alcool et on hurle comme des débiles. Et c'est un truc qui te transcende si tu te le mets dans les oreilles à minuit en haut du col de la Seine pendant l'UTMB, tu vois, Juliette. Mais non, c'est pas un truc de droite, c'est pas de gauche, c'est pas du centre, c'est pas de l'extrême, c'est pas de... Non, ta gueule, Juliette. Commence par faire des trucs intéressants. C'est fou, ça, mais... Putain, les gens ont trop de temps libre. C'est un truc de malade. Il y a beaucoup trop d'oisifs, là. Il faut vite que la décroissance arrive et qu'on retourne tous en train de mettre les mains dans la terre pour faire pousser des patates, hein, parce que là, ça va pas du tout. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Voilà, du coup, je me suis permis, je le dis pour quelques patriotes qui ont la référence, je me suis permis l'exceptionnelle image cuisine que j'ai postée sur son statut. Voilà. Ça m'a fait rire quand j'étais en train de faire caca en rentrant de ma sortie vélo. Et après, je suis allé prendre mon repas. Alors, justement, parlons-en ce matin réveil. C'était parti pour 6 heures de vélo. Le créneau météo était pas mauvais, néanmoins ça annonçait des orages le soir. Bon là, tu vois, ils arrivent à 20h, hein, donc finalement, the biwalou. Oula. Et du coup, je me suis dit, je vais pas partir trop tard. Après, je me suis dit, je vais pas partir très tôt non plus, parce que ça caille le matin à Tine, ça caille vraiment. Et vu que de Tine, t'es obligé de commencer par la descente, et tu te frigorifies tout de suite, donc c'est chiant. Du coup, j'ai attendu 10h. Voilà, 10h, c'était bien, j'avais juste à prendre des manchettes et un bof. Parce que vu que je pars pour 6 heures, il faut que j'emmène 7-8 baous dans les poches, là, plus un peu de produits dans les gourdes, parce que j'avais pour objectif de manger 30 grammes de glucides à l'heure. 30 x 6, bon, ça fait quand même 180, hein, il faut les bouffer, quoi. Et on part direction le col du Mont-Cenis, donc pour ce faire, on descend de Tignes au barrage, hop, on enquille jusqu'à Val-d'Isère, on monte le col de l'Iseran, on descend le col de l'Iseran, on arrive à Bonneval, on roule en faux plat descendant jusqu'à Lens-le-Bourg, tac, on monte le Mont-Cenis, on fait une photo parce que c'est cool, on redescend du Mont-Cenis, on repasse à Lens-le-Bourg, on s'arrête à la boulangerie, ah putain, merde, non, elle est fermée, et tant pis, on repart, j'ai soif, je bois dans un ruisseau, hop, ça remonte jusqu'à Bessant, parce que le faux plat descendant, c'est rigolo, mais dans l'autre sens, c'est un faux plat montant, et oui, messieurs, dames. Et ensuite, on se tape le col de l'Iseran depuis Bonneval, et là, c'est dur, j'aime pas du tout. T'es obligé de forcer et tout, un peu, quand même. Et la consigne du coach était de rester sous SV1. Donc c'est vrai que pour être sous SV1 dans du 10%, mon braquet de 34-28 était peut-être un peu inadapté à la situation. Mais bon. Et donc après, tu redescends le col d'Iseran à Val d'Isère, tac, tu reviens au barrage de Tignes, hop, tu remontes à Tignes. Et donc j'ai mis... Alors attendez, parce que... En fait, il y a des tunnels sur la route, donc il faut regarder vraiment sur la montre combien de temps on a mis et pas sur le... Il est où le journal ? Ah, voilà. J'ai mis 6h12. Je déconne pas. Cette sortie, je l'ai faite l'an dernier. Et j'avais... C'était la même sortie. Et j'avais mis 6h11. Donc, je mets une minute de plus que l'an dernier. Et pourquoi je suis très content ? Pourquoi aujourd'hui encore, je vais vous dire, putain, je suis grave en forme comme hier ? C'est parce que l'an dernier, quand je mets 6h11, le coach m'avait demandé de faire les 3 cols à SV1. Donc, pour moi, ça veut dire entre 131 et 152 pulsations. En général, quand il me demande ça, je me mets entre 135 et 140, comme ça, je peux gérer. Quand je suis vraiment chaud, je monte vers 145. Quand c'est un peu la fin de la sortie et que c'est dur, je reviens à 135, etc. Tu vois, j'ajuste dans ma plage. Et là, il me demande de faire une sortie cool, donc sous SV1. Donc beaucoup plus doucement en côte. Et donc sous les 131 pulsations. Et regardez, je mets le même temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai beaucoup progressé, je vais plus vite. Alors, pas forcément dans les côtes, parce que j'ai pas forcément battu mes temps. Alors, à des endroits, oui, mais à des endroits, non. Mais sur le plat, ça va mieux. En descente, ça va mieux. C'est plus fluide, tu vois. j'ai le corps qui est moins grippé, moins voilà, plus en forme quoi. Je suis plus en forme. Voilà, la preuve, voilà, c'est. En plus aujourd'hui il faisait quand même assez chaud, bah du coup voilà, là maintenant il y a l'orage, il pleut. Mais comme l'an dernier quoi, donc je mets le même temps alors que la consigne était différente. Je suis vraiment content. Donc là-dessus je rentre, je me suis fait une énorme salade composée. J'ai fini mon foie de porc, qui est quand même très industriel, hein, je le reconnais, je vais essayer de trouver mieux. Et un peu de riz, bien sûr, tout ça. Et après, je suis allé m'acheter un sandwich. Vous allez dire, putain, mais le duc, il bouffe, et après, il va s'acheter un sandwich, mais il est complètement débile. Et oui, parce que demain, on part pour monter la grande sassière avec Basile, qui travaille chez Baou. Et donc, voilà, j'ai préparé mon petit sac, là, il est face à moi. Parce que dans le sac, bah, y a le sandwich, bien sûr, parce qu'il faut absolument manger son sandwich au sommet. Hein, c'est une randonnée, c'est le principe de la randonnée. On monte sur un sommet, on mange son putain de sandwich, et après on descend. Et tous ceux qui font autre chose pendant leur randonnée sont des hérétiques. Voilà. Et dans le sac, bah, il faut que je glisse des haltères aussi, parce que le coach m'a demandé de faire une marche lestée, donc il me casse un peu les couilles avec ça, mais bon. J'ai pris deux disques de 4 kilos. Je verrai si je prends les deux ou si j'en prends qu'un. Parce que prendre les deux, ça va être chiant. Ils vont s'entrechoquer dans le sac, ça va me gonfler. Bon, on verra bien. On verra bien. Voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus. Pensez bien à ce que je vous ai dit en introduction. Pour celles et ceux qui ont beaucoup d'argent, pensez bien à me commander des chaussettes et des bonnets. Non, plus sérieusement, ça peut vous servir pour celles et ceux qui vont faire les courses de l'UTMB, puisque les bonnets sont, je le rappelle, les plus légers du game. Et en plus, ils protègent, hein, c'est pas de la flûte. J'ai une photo de moi l'an passé en haut du Grand Col Ferret avec mon petit bonnet du Carmi. J'étais beau comme tout, on aurait dit un magnifique phallus, mais à part ça, tout allait bien. Allez, je rigole, je vous laisse là-dessus et rendez-vous demain pour le podcast quotidien.